Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Par les temps qui courent, tous les soirs une conversation d'une heure et ce soir avec Adèle Abdessemed.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richieux avec Adèle Abdessemed, je suis innocent.
Une lettre mystérieuse invite un artiste et un écrivain à passer une nuit dans le musée Picasso à Paris. Ils acceptent, ils viennent et la nuit s'ouvre. Sur une absence, comme souvent, et sur une multitude de présences, comme souvent aussi. Ici, le grand absent, c'est le tableau Guernica, peint en 1937 par Picasso, et les grandes présences multiples, ce sont les fantômes, notamment ceux de la guerre civile algérienne que vous avez fui, Adèle Abdessemed, au milieu des années 90. L'artiste qui rôde dans le musée la nuit, c'est donc vous, fusain et carnet à la main, et le scribe, c'est Christophe Onodibio, qui enregistre, prend des notes et racontera plus tard. Ainsi se croisent dans vos mots et vos silences certaines de vos œuvres passées, le souvenir de vous, étudiant aux Beaux-Arts d'Alger, où la cruciale question du nu académique ouvrait d'infinies libertés et causait la mort quand on tuait pour cela. Dans le musée silencieux, on entend voler des colombes de plâtre de Picasso, on entend parler Matou Blounès, Cheikh Harmiti remplir sa théière de whisky pour célébrer l'amour, la voix berbère de votre mère et peut-être Orphée ou encore Ariane. De cette nuit, il reste un livre publié aux éditions Stock, Nuit espagnole, et paraît-il, il reste aussi un dessin sur le mur. Bonsoir à vous, Adèle Abdessemed.
Bonsoir.
Dans les notes que reproduit Christophe Onodibio, vous dites que vous n'avez rien à voir avec Picasso. Alors pourquoi vous avez accepté d'aller passer la nuit là-bas ?
Parce que c'est aussi Christophe Onodibio. On s'est rencontrés depuis de nombreuses années et ça n'a jamais cessé. Nos interrogations, nos questions, notre dialogue n'était jamais interrompu. Alors pourquoi pas le continuer au musée Picasso, une nuit d'ivresse, de voyage. Donc ça me semblait évident et même nécessaire et même le livre, j'ai fini à dire « Ce qui reste de jour ».
Qu'est-ce qui vous rapproche de la nuit ? Qu'est-ce que vous avez, vous, comme rapport à la nuit, quand elle ne se passe pas dans un musée ?
En fait, la nuit, pour moi, depuis très longtemps, je la vis presque plus. Depuis la naissance de ma première fille. Avant, je restais très tard, donc c'était les heures que j'appelle, moi, de l'existentialisme, très tardive, sous l'influence de l'alcool. Or que depuis sa naissance, j'ai changé complètement comme les galaxies quoi. Donc j'ai changé avec le lever du soleil et donc je commence très tôt, plutôt vers 4h du matin, quelque chose comme ça, où là je suis vraiment solitaire et donc et là où ma solitude elle s'installe réellement. Elle devient une solitude nécessaire et rien à faire avec dans le sens du groupe. Donc je vis très peu la nuit en fait, en vérité. Je me couche tard, ça c'est vrai. Mais on peut dire c'est le début de la nuit. Mais je ne sais pas comment je peux développer aujourd'hui. J'ai fait une œuvre que j'ai appelée une fois la nuit, mais c'était avec des coups de feu, des choses comme ça la nuit pour moi. Oui, c'était la terreur, peut-être. Mais je ne le vis plus, ça.
Quand vous dites tout commence à 4h du matin, c'est quoi ? C'est le travail qui commence ? C'est la pensée qui commence ?
je ne sais pas si on peut dire que, en tel cas, réellement, oui, concrètement, d'une façon la plus simple et la plus banale, parce que c'est aussi le quotidien, on peut dire, c'est répétitif, c'est récurrent, donc je me lève, j'aime écouter la musique, la première chose à faire, c'est mettre un vinyle et après, je commence à tourner des pages ou réfléchir obsessionnellement sur une idée ou sur un projet ou sur quelque chose qui s'impose en moi. Et là, peut-être, c'est des images donc qui descendent, qui défilent. Mais je fais ça tous les jours, régulièrement, maintenant depuis peut-être 17 ans, parce que c'est l'âge de ma fille, elle a 17 ans aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est retenir une phrase, c'est tourner des pages. Je suis un professionnel depuis je sais pas combien d'années aussi, professionnel de tourner des pages, donc j'aime tourner des pages. Et voilà, écouter la musique, réfléchir, ça dépend. Ça dépend parce que avoir des émotions, c'est pas tous les jours. Et les émotions, il y a des émotions significatives, il y a des émotions qui sont assez obscures, mais qui s'imposent. Parfois, on les voit. Donc il y a une lumière comme ça, comme une luciole. Parfois c'est lumineux comme le soleil. Donc les émotions sont à l'infini. Donc parfois je ne sais pas comment on peut décrire ça, comment on peut même mettre des mots sur les émotions, parce que c'est les mots ne sont pas assez, je crois, pour faire parler une émotion, en tous les cas, dans mon cas.
Quoi qu'il en soit, vous êtes toujours à l'affût de ça, vous les accueillez toujours, les émotions. Vous dites, elles n'arrivent pas tous les jours, ces émotions-là, Adèle Abdessemen. Et quand elles arrivent, vous êtes toujours prêt?
Parfois, par surprise ou par étonnement, si on veut. Parfois, on les provoque. Parfois, les émotions, moi, je les décris comme... Comme les Alpes, par exemple, les montagnes. Donc, ça monte, ça descend. Hein, donc, on est au sommet, hop, et ça redescend. Et après, hop, c'est des petites collines, etc. Et puis, c'est des rochers. Donc, c'est un peu ça. Donc, évidemment, il y a le vide, parce qu'il y a un creux. Et après, paf, c'est chargé, c'est plein. Et hop, ça monte vers le haut. Parce que l'émotion, elle n'a pas de but. Donc, contrairement à une idée. Une idée, elle a un but, en tous les cas. Quand surtout, elle est très bonne. Mais on n'a pas non plus des bonnes idées tous les jours.
Heureusement,
donc,
non.
Donc, il faut les trouver.
Et voilà. Les œuvres d'art, elles arrivent plutôt dans des moments où vous êtes en haut de la montagne ou en bas de la montagne, ou est-ce qu'il faut un tout petit peu des deux pour qu'il y ait des œuvres d'art qui naissent?
Ah, ça vient de ma petite enfance. Donc, en fait, je saute, je sursaute, je tourne, je me retourne. Et je roule et je me dresse. Donc, ça fait un peu ça, je crois, les œuvres d'art quand ils viennent.
Voilà. Je saute, je sursaute, je me retourne, je roule et je me redresse.
Oui, je crois. Mais je renverse toujours la perspective. J'essaye, en tous les cas.
Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez en suivant une présence mystérieuse vous invitant à passer la nuit au musée Picasso à Paris. En revanche, je crois que vraiment, la grande absente, le grand absent, c'était Guernica.
Les gens de Guernica sont de petites gens. On a tout lu dans les journaux en buvant son café. Quelque part en Europe, une légion d'assassins écrase la fourmilière humaine. Quelque part en Europe, et c'est à nos frontières. Les femmes, les enfants ont les mêmes roses rouges dans les yeux. Chacun montre son sang. Dire que tant d'entre nous avaient peur des éclairs, peur du tonnerre, que nous étions naïfs. Le tonnerre est un ange, les éclairs sont ses ailes. Et nous n'étions jamais descendus dans la cave pour ne pas voir l'horreur de la nature en feu.
Mmh. C'est un film réalisé par Alain René en 1950. C'est la voix de Maria Cazares. Le texte qui est dit est inspiré des vers de Paul Éluard. Et il est question de Guernica, à l'écran, des images en noir et blanc, de certaines œuvres de Picasso, pas seulement Guernica, certaines œuvres qui se succèdent et qui permettent de dire peut-être encore autre chose que l'art de Picasso. Quel était votre lien avec Guernica avant d'entrer dans ce musée la nuit, Adèle Abdessemed?
Ben, mon lien d'abord avec Picasso et après avec Guernica, parce que c'est l'artiste qui est derrière. Et pour moi, Picasso, c'est un artiste de combat. Mais je le précise pourquoi j'avais pas une affinité, parce que j'étais en Algérie, ça a été presque imposé comme l'école de Paris. Il y avait une fascination, mais totale, par tous les professeurs, en tous les cas, qui ont fait l'école de Paris. Et donc, c'était presque, et puis, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais jeune, ça m'agaçait, marié avec de nombreuses femmes. Donc, c'était pour moi l'image un peu de misogyne parfait, en dehors évidemment de l'artiste. Et ça me troublait énormément. La femme, il la représente comme une la monte religieuse qui parce que à la fin elle dévore l'homme justement, et donc je le voyais vraiment cet artiste l'hyper puissant qui est incarné en tel cas ou qui envoyait la femme comme un simple objet. Et plus tard, j'ai réalisé finalement que c'était un artiste, pour moi, de combat. Et il peignait comme un guerrier. Et là, ça a été pour moi une sorte de réconciliation qui était totalement éloignée de ce que je voyais quand j'étais effectivement... en Algérie à travers simplement des documents et jamais réellement à travers un musée ou des œuvres physiques que j'ai confrontées. C'est pourquoi j'avais ce jugement qui était pas juste et après j'ai de la compassion pour lui. Et je me suis réconcilié avec lui en voyant vraiment des œuvres dans des expositions, dans des musées, notamment quand j'étais à Barcelona, j'ai visité son atelier qui s'est transformé en musée, sa maison, et surtout partout, j'ai vu des œuvres et j'étais toujours bluffé de sa capacité, son talent, sa sensibilité. Et ce que j'aime chez lui, c'est son renouvellement, c'est sans cesse. Vous savez que 1911, il peignait déjà les Demoiselles d'Avignon. C'était un choc. C'était l'œil était, il était vraiment frappé par cette œuvre-là. C'est comme à l'époque, il y avait bien sûr Stravinsky avec le sac de printemps ou des choses comme ça. C'était aussi, on était frappé. Beaucoup d'œuvres qui sont nées comme ça. Et c'est là j'ai compris que j'ai pris goût aussi de pénétrer les espaces, mais avec des coups de couteau. Quand je dessine, c'est presque des coups de couteau. Je trace une ligne, vraiment comme des ébistéorées ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est omniprésent dans l'œuvre, en tel cas, de Picasso, parce qu'elle commence toujours par un dessin.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que moi, je pense à un souvenir que vous racontez, Christophe Onodibio, parce que vous prenez l'invitation au pied de la lettre. Il est le scribe, et pendant toute une nuit, il va... annoter, enregistrer les paroles que vous allez dire et peut-être aussi ce que lui va voir. Et il y a un des souvenirs qui est une de vos toiles lacérées d'un coup de couteau, Adèle Abdessemed. Et vous le voyez au matin, je crois, d'une nuit. et vous dites « Cette toile, elle a été percée, ils ont fait du Lucio Fontana sans s'en rendre compte. » Vous vous souvenez?
Parce que ça, j'ai reçu une menace. À l'époque, c'était GIA. Oui, avec des slogans de peur et de... l'atelier à l'époque, à l'école des Beaux-Arts d'Alger, oui. Ça m'a beaucoup, troublé. Et c'était un peu dans le sens, de Fontana, oui. Oui. C'était pas un stigmate, en tous les cas. C'était pas le clou de la croix. C'était vraiment un coup de couteau, oui.
Et Guernica, alors? Puisque Guernica, vous êtes comme à sa recherche. Pendant toute la nuit, le tableau est absent, puisqu'il est ailleurs, il ne peut pas être là, il ne peut plus être transporté, c'est tout un bazar, il faut des tonnes et des tonnes de containers. Et vous le cherchez pourquoi alors?
Ah, moi, je ne cherchais pas, sincèrement, Guernica, l'œuvre, parce que je la connais, je l'ai déjà vue. Et ce qui m'amusait, c'est vraiment passer cette nuit agréable, riche, beaucoup de... Christophe, c'est un écrivain, c'est un grand écrivain, et à la fois journaliste aussi. Il est aussi baroque, à la fois un détective aussi quelque part. Et on s'est laissé abandonner avec toutes ces notes, tous ces poètes qui étaient là, tous ces documents aussi, archives, des esquisses, toutes ces jouissances, en tous les cas. Jouissance, ça veut dire ça invite le plaisir aussi. Le vin, l'alcool, cette nuit-là aussi. Mais rechercher Guernica, une œuvre en noir et blanc, grise surtout, mais plutôt c'était, on cherchait peut-être dans, on a dit c'est labyrinthe hein, dans le sens, mais c'est labyrinthe qui était en ligne droite. Donc et trouver, je crois, le fil comme le Minotaure de Thésée. Et donc c'était c'est nouer, dénouer, c'était peut-être on voulait comprendre aussi pourquoi l'ampoule, par exemple.
Il faut préciser ça.
Voilà, parce que c'est
l'histoire de l'ampoule.
On voit la jument, bien sûr, on voit l'enfant,
choses.
On voit la mère qui pleure. Mais la chose la plus extraordinaire, c'était l'ampoule. L'ampoule, mais avec un œil, quand même. Donc c'est la lumière, donc c'est ce qu'on voit, hein, probablement.
Il faut parler de votre œuvre à vous, alors, Adèle Bessemer.
Oui, voilà. Donc moi, j'ai fait une œuvre où j'ai écrasé la lampe. Je l'ai écrasé l'ampoule. Ça veut dire que c'est la vie qui frappe justement l'image, qui frappe la lumière, qui parce que on est dans une époque tellement vraiment violente, je crois, de comme d'autres époques sans doute. Mais on a le sentiment qu'on n'a plus envie de voir, qu'on n'a plus envie de voir, et parce que il y a des choses insupportables, vraiment. Parce que le bombardement aujourd'hui, comme il le dit très bien Didier, donc on est vraiment bombardé, mais violemment, par les images du quotidien aujourd'hui, à travers les médias, et notamment la publicité, mais aussi les nouvelles des mondes, mais qui sont cruelles et qui sont horrible. Mais je crois qu'on n'a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. On sait exactement ce qui se passe aujourd'hui, dans la seconde, à Johannesburg, ou à Mexico City, ou au Caire, ou à Shanghai, mais immédiatement, vraiment en Syrie, ou en Turquie, ou peut-être même en Algérie. C'est dans la deux secondes. On a des images qui viennent de partout, partout. On est vraiment bombardé. Et on se disait, voilà, peut-être Homer, voilà, est aveugle. Borges, il a fini de devenir aveugle. Et Oedipe était aveugle. Et je pense que peut-être aujourd'hui, c'est vraiment le monde est complètement peut-être aveugle parce que on a tellement aussi inventé, on a tellement créé de choses, mais on les consomme avec une vitesse hallucinante, je crois, et que on n'arrive plus à suivre, on n'arrive plus. Moi, j'arrive pas. Je pense qu'il y a beaucoup de résistance, mais je ne sais pas, même la lutter contre quoi. Et sincèrement, c'est avec surtout aujourd'hui les fake news et tout ça, donc on ne sait pas quel est réellement notre combat. On a pour un idéal qui s'appelle liberté, ça veut dire justice, c'est justice quand elle est puissante, elle est tyrannique, justice quand elle est tolérante, ça veut dire elle est impuissante. On sait réellement que faire. Que faire face à tout ça, je ne sais pas. Mais je ne décris pas un monde qu'il ne faut pas l'affronter. Donc il faut l'affronter, et effectivement, peut-être il y a des portes de sortie, mais sont de la création et de l'art. Donc c'est les images qui sont des simples images, mais avec ça, comment on peut créer des œuvres de résistance. Et Picasso l'a démontré avec Guernica et d'autres œuvres, des œuvres de résistance. Donc là, je pense que il est temps de reprendre combat. Donc l'artiste est comme un vrai combattant.
C'est un livre, Cette nuit espagnole, qui donc raconte votre nuit avec Christophe Onodibio, dans cette espèce de recherche de labyrinthe tout droit vers Guernica absent, que vous dédiez à un certain Kamel, qui maîtrise sa colère, peut-être Kamel Daoud.
J'ai posé la question à un sociologue ami, c'était à l'époque, pourquoi notre pouvoir est si violent? Il m'a dit, c'est l'enfant d'une violence. La colonisation a été dure. Pour la combattre, il fallait faire de même. Et cette violence est restée. Et en même temps, dans tous les manuels scolaires, dans ma culture, dans la culture de beaucoup d'Algériens, on a grandi dans un univers où l'homme en armes était le héros. L'homme avec des idées, c'était à la limite un supplétif de la révolution. Donc ce n'est pas l'intellectuel qui est sublimé, c'est l'homme en armes, le combattant. Et à la limite, ça a provoqué un effet de reconduction, même avec les islamistes par la suite. C'est-à-dire l'homme qui prend les armes, qui prend le maquis, qui se bat, qui... Ben, il y a un rapport physique, mais musculaire à l'histoire. On nous a toujours appris que la guerre, l'indépendance n'a pas été acquise parce qu'il y avait des gens qui ont des idées, mais parce qu'il y a des gens qui avaient des armes. Je pense que les idées, c'est avant les armes, parce qu'il faut savoir où on va, pour qui on combat et pourquoi. Je pense que toute guerre, ou toute utopie, ou tout paradis, ou tout confort commence avec un rêve, pas avec un couteau.
C'est l'écrivain Kamel Daoud en 2011, au micro de Pas la peine de crier, sur France Culture, Adèle Abdessemed. On entend dans sa voix que... Finalement, la violence qu'il observe dans le régime algérien n'est que pour lui et pour le sociologue ami qu'il évoque la continuation d'une violence, la perpétuation d'une violence. Et il dit que tout commence avec un rêve. Ni avec des idées, ni avec des couteaux, mais avec un rêve. Est-ce que vous le suivriez là-dessus?
Oui et non. Parce que moi, je préfère les rêves du jour. Parce que j'ai fini finalement à avoir des rêves qui sont des rêves solitaires. Et les rêves pour utopiques, en tous les cas, ils peuvent être très dangereux. Le Goulag nous a enseigné qu'il faut se méfier de justement des grands rêves. Mais c'est vrai que ce qu'on mange, c'est fait par l'homme. Ce qu'on là où on habite, ça veut dire notre toit, notre maison, c'est fait par l'homme. Nos vêtements, c'est fait par l'homme. Notre langage, c'est créé par l'homme. Donc notre existence est liée par l'homme. Et je crois que Kamel, ce qu'il voulait probablement dire, j'interprète, c'est son idée du rêve, il faut qu'elle soit au-delà du bien et du mal. Au-delà du bien et du mal, ça veut dire arriver, je pense, à un homme, tout simplement, qui voulait dire, ça peut être aussi un petit rêve, parce qu'il a parlé de l'enfance et de l'enfant. Et donc c'est un rêve que Kamel rêve, c'est un rêve innocent et pas un rêve transformateur qui veut bien sûr changer le monde, mais changer justement notre quotidien, notre existence de tous les jours, mais pas un rêve totalitaire tel que l'a prédit Marx par exemple, ou la liberté telle que Schopenhauer nous a enseigné, ou un rêve tel que Freud nous a expliqué, en tous les cas. Je pense que c'est vraiment un rêve d'innocent face au totalitarisme, face au rôle compresseur d'un État. Mais effectivement, quand on vit dans un État, on doit respecter, je crois, sa justice, n'est-ce pas? Mais la justice d'un État, elle peut complètement être injuste, parce que on le sait, quand un État tue, viole, incendie, on dit que c'est de la diplomatie, n'est-ce pas? Mais quand un individu tue, on dit que c'est un crime. Donc les rêves, hein, tels que j'entends chez Kamel, c'est un rêve d'un poète, d'un écrivain, et il est innocent comme moi.
Oui, justement, voilà. Il y a deux choses quand même dans ce que vous dites, Adèle Abdessemet, qui font référence à ou bien vos travaux ou à de précédentes expositions. Ce rapport à l'innocence, moi ça me fait penser évidemment à un rêve, à une œuvre. C'est peut-être un peu la même chose. Vous vous immolez par le feu. Première association. Deuxième association, au titre d'une exposition, au-delà du principe de plaisir, vous reprenez cette idée-là d'aller au-delà du bien et du mal, d'aller au-delà d'une direction de l'existence qui tendrait vers notre bien, qui tendrait vers notre plaisir. C'était le titre d'une exposition dont on peut d'ailleurs trouver un catalogue. C'est en collaboration, en discussion avec Jean Nouvel. Alors, je sais pas, commentez l'une ou l'autre des associations. L'innocence, vous avez quoi comme rapport avec ce mot-là que vous utilisez?
Je pense que les traumas, en tous les cas, ou les chocs, ou les troubles, ils sont pas que physiques, ils sont aussi mentaux. Et je pense que dans ce livre de Freud extraordinaire, dans les années 20, le retour de ce soldat de la Première Guerre mondiale, donc il est revenu avec des vrais traumas. Et donc, comment en fait la thérapie à l'époque, hein, en tout cas c'est Freud, justement la poursuite à travers ce soldat, le faire sortir, parce que quand il a vu ce que c'est la démence, ce que c'est les démons, c'est très difficile de le revenir vers c'est le retour qui est terrible. Je pense que il y a un autre témoignage de Primo Levi où j'ai honte d'être un homme. Donc il avait honte. Ce qu'il voulait dire, c'est comment je peux continuer après ce que j'ai vu, après ce que j'ai vécu. Ça, c'est domaine effectivement de la psychanalyse ou de, des gens très compétents, en tous les cas, ou des, qui peuvent en parler.
Mais enfin, c'est aussi des choses que vous traitez dans vos œuvres d'art.
Dans mon cas, c'est que mes rêves, ce sont que des instincts ou des intuitions. Sont à la fois déchiffrables et indéchiffrables, définissables et indéfinissables. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent parler même ce que je fais mieux que moi, hein, parce que moi, ce que je fais, en tous les cas, ce que je réalise, c'est en tant qu'artiste libre et artiste des images. Donc, je fabrique, je produis des images. Mais de les expliquer exactement, ça, je ne sais pas le faire. Alors là, je ne sais absolument pas le faire.
Mais par contre, vous savez donner des titres. Et les titres, c'est des pistes. Quand on appelle la question de l'innocence, je ne suis pas innocent, ou je suis un innocent, ou encore titrer une exposition au-delà du principe de plaisir... Peut-être que ce ne sont pas des explications, mais ce sont des pistes. Ça nous emmène à un endroit.
Oui. Rimbaud, quand il disait la Vierge folle, dans La Vierge folle, la vraie vie est absente. Mais dans toute la Vierge folle, la Vierge... Donc, pour dire que la vraie vie est absente. Donc, moi, un titre, c'est pour nommer tout simplement mon image. Je crois que la nomination, de toute façon, donner même un nom, c'est une invention aussi de l'homme, mais c'est déjà très très présent dans la chrétienté surtout. C'est nommer. Nommer, c'est déjà reconnaître. Je pense par exemple aux animaux. C'est, on appelle un chien, mais on lui a pas demandé est-ce que vous êtes d'accord, parce qu'on vous appelle chien, ou on vous appelle âne, ou on vous appelle singe. Ça, on n'a pas demandé l'autorisation.
Ah non, c'est sûr qu'on les fait rentrer dans le règne du langage humain sans leur demander
leur permission. Et ça peut être une part de violence de notre part, parce que peut-être ils aimeraient bien qu'on les appelle feuille blanche.
Ou pas.
Ou rien. Encre rouge, peut-être.
Ou rien.
Ou peut-être rien. Mais peut-être ils ne seront pas contents si on ne les nomme pas. Ça aussi, on ne sait pas. Et je pense trouver parfois à mes images des noms, ça me permet de fixer en fait. Ça me donne des fixations, mais pas dans le sens...
Pas dans le sens du sens, dans le sens de la fixation.
Voilà, parce que moi, avant que je dise pluie, par exemple, le mot tombe, j'ai les masques qui tombent, je vois la pluie en fait. Et donc, c'est pas pour illustrer réellement, c'est un état en fait. C'est un état qui peut être rien à voir avec l'œuvre ou l'image que j'ai faite. Mais c'est une fixation, à ce moment-là, de mon état. Ça peut être une référence... un film, ça peut être une référence à une musique, ça peut être référence aux mots parce que j'ai lu quelques années Flaubert, par exemple, ce qui peut rappeler quelque chose de Saint-Julien l'Hospitalier, par exemple, ou je ne sais pas, c'est vraiment c'est juste fixer cette image-là et et ça me permet justement de l'accrocher quelque part dans ma tête et dans après effectivement avec le temps en produisant des œuvres et ils ont beaucoup beaucoup de titres et tous les titres sont devenus significatifs et un champ très très important par rapport au sens parce que c'est vrai je suis obsédé aussi par le sens et donc c'est devenu comme ça une sorte de palette de mots à l'infini, je crois. C'est comme ça que moi je la décris en ce moment-là, maintenant. France Culture par Les Temps qui courent, Marie Richieu.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne se considère vivante ? Souvent, soutenir sa vie sans ce sacrifice n'a plus de sens. Ça n'est plus être en vie. C'est une manière d'être déjà mort. C'est-à-dire, on met toujours la mort de l'autre côté et la vie du côté de celui qui la donne. Mais au fond, on peut aussi partir d'un lieu où on est à demi-mort, où on est déjà cerné par la mort. Et donc, le mouvement du sacrifice est aussi un aller vers la vie. Et là, il y a vraiment quelque chose qu'on ne signifie pas assez. Alors, le rapport entre sacrifice et don de soi ou donner sa vie, moi, j'ai le sentiment que le sacrifice, il vient souvent à partir d'un trauma non dit qui a été effacé. Et ce trauma, il n'est pas seulement individuel. Je pense que il y avait des conditions, par exemple en Allemagne, où l'Allemagne avait été aussi mise à genoux par les accords, enfin tout ça est assez, qui a produit en conséquence, en partie, le terrain d'un sacrifice ultérieur, comme si le sacrifice était une manière de faire émerger le trauma comme tel. Il met sur une scène quelque chose qui a été effacé, proscrit ou complètement passé sous silence.
Juste après ce grand classique de Cher Arimiti, Noir, on entendait la philosophe et psychanalyste Anne Dufour-Montel d'abord s'interroger sur ce que c'est qu'un être qui est vivant. Comment est-ce qu'on peut se dire vivant ? Qu'est-ce qui fait de nous des vivants ? Alors peut-être on va commencer par s'arrêter là-dessus, Adèle Abdessemet, puisque cette question d'être vivant ou de n'être pas vivant, c'est une question qui vous agite, Christophe Onodibio et vous, pendant cette nuit passée au musée Picasso à Paris.
Oui, je pense que dans le livre on l'a évoqué beaucoup, une part des traumas, surtout de ma petite et mon enfance aussi en Algérie, où je pense que vivant, c'est déjà aimer son image, non? Aimer soi, déjà. Or que, par exemple, l'Algérien n'aime pas son image. L'Algérien, par exemple, aujourd'hui, est amnésique. Et c'est comme un zombie. Donc c'est un vivant mort ou un mort vivant, les deux à la fois, parce qu'on lui a jamais dit la vraie vérité. C'est pas déjà ce qui s'est passé les années noires de 90, par exemple. Ça, c'est la jeunesse, ne sait absolument rien. Et justement, ils ont amnisté justement les des tueurs qui les ont mis en liberté, et alors qu'ils ont mis des journalistes ou des écrivains en prison, par exemple, ou des artistes.
Quand ils n'ont pas été tués.
Quand ils n'ont pas été tués, exactement. C'est vrai qu'on n'a jamais expliqué qui c'est qui a tué, par exemple, la Asné ou Matoblounès ou Tahar Jaout, ou même beaucoup plus loin encore dans l'histoire, Mouloud Farhan. Et donc, c'était... Je pense que c'est de priver quelqu'un de sa mémoire aussi, je pense, qui n'a plus de mémoire.
Qui en fait un mort vivant ?
Comment ?
C'est ça qui en fait un mort vivant, quand on prive quelqu'un de sa mémoire ?
Moi, je le crois, ça veut dire que c'est... là, il n'est pas libéré, là, il est en prison. Quelque part, en tous les cas. Donc, c'est le priver vraiment de sa mémoire. Je pense lui arracher une grande part de soi, en tous les cas. Mais c'est pas la mémoire dans le sens où il y a des remords. La mémoire au pour ne pas parler d'histoire, la mémoire où il y a de la vérité. Je pense que c'est là où il faut, où il y a un travail à faire, c'est ça, avec Ono Debio, quelque part, on a évoqué cette question justement de la mémoire et pourquoi. Et pourquoi sont rappelés de certains souvenirs qui remontent. Et
vous attendiez à raconter tout ça pendant cette nuit-là? Adèle Abdessemed, vous attendiez à ce que ces souvenirs remontent, ces visages, ces endroits?
Je m'attendais pas qu'on allait parler, c'est vrai, de ça. C'est venu tout seul et on s'est laissé aller avec le dictaphone, donc qui était comme témoin de notre soirée, en tout cas espagnole, de notre nuit espagnole, donc. Elle était rythmée comme de la danse de tango, hein. Donc c'était on s'est fait laisser aller, porté par cette nuit là. Donc les choses tombent, défilent à travers un mot, à travers une image faite par Picasso, ou bien
dessiné par
des archives, des choses, ou dessinées par moi-même, effectivement, où je faisais totalement autre chose à chaque fois, mais voilà, c'était pas une nuit degré zéro, c'était une nuit qui dit le temps des poètes. Je la définis comme ça.
Et c'est pas voilà. Le temps des montres. Christophe Ono Debio l'écrit à plusieurs reprises pour reprendre comme ça son souffle. Mais nous aussi pour reprendre un petit bout de la réflexion portée par Anne Dufour-Montel dans cette archive, et la question du sacrifice, notamment portée sur le corps animal. C'est une question que vous travaillez, vous, dans votre œuvre, Adèle Abdessemed, mais elle renvoie évidemment à des notions beaucoup plus mythologiques, beaucoup plus antiques. Vous diriez que vous aviez sacrifié quoi pour rester vivant?
J'ai sacrifié par exemple ma jeunesse, par exemple, qui était une jeunesse très sombre. Ça a été, oui, pour moi, sacrifié, oui. C'était, je crois, une période comme ça de la vie de... Parce qu'on sait que de toute façon il y a la mort qui nous attend, et c'était l'espérance, mais après j'ai de la chance donc de fuir. Après ma fuite, J'ai reconstruit, en tous les cas, à partir de ces traumas, le fond où il y a où installé le désespoir, ça m'a donné la force de crier, en tous les cas. Mais crier dans le sens cri et créer, donc les deux à la fois. Donc, je suis un artiste de créer, oui. Mais j'ai fait le Christ, par exemple, c'est qui est une figure porteuse de la douleur, je crois, de la souffrance. Mais j'ai fait le Christ, pas pour les mêmes raisons que ça, mais plutôt le cri.
Bah oui, il y a quand même un travail. On peut parler peut-être de cette œuvre-là qui s'appelle Le Cri.
Oui.
Qui est une sculpture, plusieurs sculptures, qui reprennent notamment les tailles successives de vos filles. C'est une sculpture à la police. Une sculpture à qui vous avez redonné la police. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Adèle Abdessemet, de cette sculpture-là qui s'appelle Le Cri?
Oui, parce que cette œuvre Cri que... que par exemple tombé à travers une image d'archives faite par Nick Hutt de Kim Phuc, donc Vietnam War, donc ça rappelait quelque part, je crois, moi c'est plus un peu tardivement, mais je me suis reconnu très rapidement dans cette image. Elle me bouleverse.
Qui crie pendant la guerre du Vietnam.
Voilà, elle me bouleverse, elle m'a bouleversé en tous les cas, et elle me bouleverse toujours. Et mais ce qui m'a bouleversé le plus, parce que j'ai fait deux œuvres, Cri de Nick Hutt, la photo, et aussi j'ai fait une autre œuvre qui s'appelle, que j'ai appelée Mon enfant, pour, de la sortie de l'enfant de Ghetto de Varsovie. Et ces deux œuvres-là, je les ai réalisées avec de l'ivoire. Évidemment, je précise très vite, l'ivoire que moi j'ai utilisé avec des CITES 50 ans avant, etc., avec des certificats de la traçabilité, etc. Et je suis avec toutes mes forces et toute mon énergie contre l'exploitation des animaux, l'ivoire, le trafic d'ivoire, tout ça, je suis vraiment contre. Et il faut protéger évidemment ces éléphants, il faut protéger ces animaux qui sont mes frères lointains, et il faut sauver aussi notre planète. Mais ça, je le dis très vite. Et quand j'ai fait ça, de tous les matériaux c'est venu dans mon rêve, c'était de les voir. Et donc, je l'ai vu, ce matériau, et j'ai réalisé on les voir, mais j'ai compris une chose. Pourquoi les voir? Parce que c'est un matériau, en fait, qui ne meurt jamais et qui résiste vraiment à la mort. Parce qu'il contient de l'air, et donc il bouge. Et contrairement au ciment... contrairement à l'or, contrairement à d'autres matériaux, peut-être beaucoup plus nobles encore, le bronze ou je ne sais pas, ou le jade, je ne sais pas. J'ai pas choisi ça. J'ai vécu vraiment mon rêve. Là, c'était mon rêve du jour. Vraiment, c'est en ivoire. Donc, je l'ai vu en ivoire. Et donc, j'ai réalisé. Au départ, je comprenais pas vraiment, mais j'ai compris que c'était de l'ivoire. Et je l'ai réalisé. Et pourquoi? Parce que quand on clique aujourd'hui Google, par exemple, on fait l'enfant de ghetto de Varsovie, ou c'est mélangé avec des images aujourd'hui Internet où on voit des enfants morts de tumeurs de cerveau, d'accidents de voiture, des morts en tous les cas qu'on peut qualifier de banal, de quotidien. La mort, c'est la mort en tous les cas, mais pas comme des témoins d'une très grande tragédie ou témoins d'une grande monstruosité humaine telle que Nick Hutt ou tel que Kim Fook ou tel que l'enfant de ghetto de Varsovie, et comment on va expliquer à nos enfants futurs, parce que parfois je m'occupe aussi de l'histoire, pourquoi pas, et leur dire attention, hein, c'est pas la même chose. Un enfant qui est mort d'accident de voiture, c'est pas la même chose de l'enfant de ghetto de Varsovie ou jusqu'à je l'ai appelé mon enfant, vraiment, je l'ai adopté, donc il fait partie de mon histoire, même si elle est lointaine, j'étais pas là, mais je me sens très proche, je me suis très vite transposé dans ces deux images très puissantes qui m'ont bouleversé et qui m'ont empêché de dormir, oui. Donc c'est
Ça me fait penser à Adèle Abdessemet que juste avant d'entrer dans le musée Picasso à Paris avec Christophe Onodibio, vous vous arrêtez, comme de bien entendu, pour prendre un verre, comme ça, pour que la nuit commence. Et il y a une femme qui attire votre regard, en tout cas dans l'histoire que vous racontez. C'est une femme qui est mystérieuse, qui vous interroge. Vous vous demandez si c'est pas la personne qui vous a invité à passer la nuit dans le musée Picasso. Et de cette femme, on sait pas grand chose, on sait juste qu'elle est sage-femme. Et il me semble que ça dit des choses sur ce qui viendra tout au long de la nuit et sur le rapport à la peinture, sur le rapport à ce que vous voyez dans Guernica, ou même sur ce que vous venez de dire de ces deux enfants-là, qui sont vos enfants, par l'acte de créer Adèle Abdessemet, comme s'il y avait quelque chose dans la naissance, mais presque obstétricale, qui vous avait intéressé tous les deux, Christophe Onodibio et vous, pendant cette nuit-là.
Oui, on a fini d'appeler ce livre Nuit espagnole, n'est-ce pas? Donc c'est une danse de tango la femme, c'est vrai, elle était omniprésente dans chez Picasso d'ailleurs, c'est très présent et surtout dans nos discussions. Mais la femme dont vous parlez, c'est une déesse. C'est au-delà d'une femme. C'est une déesse comme les déesses grecques l'autre fois. Donc, elle n'était pas transparente. Elle n'était pas non plus fantôme. Mais elle avait une présence, probablement sans qu'elle soit présente avec nous ce soir-là, en tous les cas.
Pas n'importe quelle déesse.
Alors?
Je sais pas, elle dit qu'elle travaille, cette femme-là, elle invoque quand même la déesse des sages-femmes.
Oui, mais...
Et puis par ailleurs, il y a une autre femme qui plane comme ça au-dessus de cette nuit espagnole qui s'appelle Concepcion.
Bah oui, mais Concepcion, je pense, je vais pas répondre à la place de Christophe. Je crois que je lui réserve ça plutôt pour lui, parce que lui, il sera... plutôt parler de Concepcion mieux que moi, parce qu'elle est très proche de lui. Donc, oui, Concepcion. Moi, je ne révèle pas le secret, parce que Concepcion, c'est vraiment Christophe Onodibio qui peut...
Alors, secret qu'on va vous demander de peut-être révéler à Adèle Abdessemet, c'est qu'il y a un dessin qui reste de cette nuit-là. À la fin du livre, vous remerciez le directeur du musée Picasso d'avoir accueilli votre dessin de la nuit directement sur les murs du musée Picasso. Vous avez dessiné quoi?
Un chat que j'ai appelé Philia. Parce que j'ai une amie, Hélène Sixo, qui venait de perdre ses deux chats, Philia et... j'ai un trou.
Ouais, elle venait de perdre ses deux chats.
Voilà. Et vraiment, j'ai vécu... cette période de Hélène, très très souffrante, une grande grande perte pour elle, et pratiquement elle a perdu ses chats, mais elle a perdu en même temps ses mots, hein, à la fois. Et donc là, quand j'ai dessiné un chat, j'ai très très vite pensé à Philia. Parce que Philia, c'est elle qui venait, quand j'y vais chez elle, c'est elle qui venait me voir souvent. Elle montait sur la table ou bien elle fait la séductrice. Donc, que l'autre, elle était toujours cachée, très discrète. Donc ça m'a pas empêché de ne pas l'appeler, Philia, cette nuit-là. Donc voilà, amour, tout simplement.
Merci beaucoup, Adèle Abdessemed. Alors, il y a un chat comme ça, et peut-être c'est le fantôme du chat d'Hélène Cixous. Ça renvoie à un des livres qu'elle a consacré à votre travail. Les Sans Arches d'Adèle Abdessemed, c'était paru chez Gallimard. Quant à cette nuit espagnole, elle est parue aux éditions Stock. Et donc, on peut voir ce dessin alors. Il est encore au Musée Picasso.
Paraît-il, il va rester jusqu'à la fin des temps.
Ce soir, c'était Manon Houssin, à la réalisation Milena Hellig. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riandet. C'est aussi une page Par les temps qui courent sur franceculture.fr et un podcast via toutes les bonnes applications. Dans un instant, il est 22h sur France Culture. Très belle soirée à vous.
Знать, увидел вас я не в добрый час. Очи черные, жгучи пламенные, и манят они в страны дальние. Где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды зов. Продал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаясь. Вы загубили меня, очи черные унесли навек мое счастье. Боюсь я вас.